Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 7 décembre 1990.
J'espère que vous n'avez pas tout oublié, ouais. Philosophie première. Alors nous allons continuer. Il y a des questions. Pouvez-vous expliquer ce que signifie l'expression « l'être à l'homme » To anthropo einein. Est-ce une réponse à la question « qu'est-ce » C'est plutôt le jugement. C'est une réponse, si vous voulez, c'est le jugement, mais c'est pas « qu'est-ce ». Le jugement d'existence, l'être à l'homme. L'ipsum esse rei. Voyez, en latin. Cet homme a dit par exemple que le jugement se termine à l'ipsum esse rei. Je l'écris au tableau puisque c'est du latin. L'ipsum esse rei. Pour cet homme a dit que l'ipsum esse rei, c'est le propre. Le jugement se termine à l'ipsum esse rei. L'appréhension, l'acuité. Vous voyez? Donc c'est pour montrer que le jugement atteint l'existé. L'existé à l'homme. L'être à l'homme. Donc c'est bien le jugement d'existence. Être à l'homme, ça veut dire que je touche non pas l'homme, mais je touche l'existé, cet existé particulier qui est Pierre, qui est l'homme. C'est tout simplement ça, c'est pas plus. Alors, est-ce une question, est-ce une réponse à la question qu'est-ce? Non. La réponse qu'est-ce? Cet individu, Pierre, qu'est-ce qu'il est? Un homme. Oui. Quand je pose la question qu'est-ce, habituellement le tiesti, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? Je réponds, Pierre, qu'est-ce qu'il est? L'homme. Un homme. Quand vous posez la question, Pierre, qu'est-ce qu'il est? L'être. C'est pas ça du tout. Parce que Pierre, il n'est pas l'être. Le tiesti pose toujours la question de la détermination. Alors, je pose la question, quelle est la détermination fondamentale de ce qui est en tant qu'il est? Là, je précise. Mais quand je pose la question, qu'est-ce? Je veux tout simplement savoir la détermination. Qu'est-ce qu'il est? Quel est son lien avec l'expérience sensible, avec le chemin d'existence? C'est justement ce que je dis. Le chemin d'existence porte sur la réalité telle qu'elle est. Bon. Autre question. Vous avez dit, dans le dernier cours, c'est vieux, hein, ça fait rien. Donc c'est sûrement le dernier. Que le tutti ene inein n'est pas une formalisation pour Aristote, mais demeure concret. Oui, concret, attention, hein. C'est pas une formalisation, c'est pas l'humanité. C'est l'homme. Alors, c'est abstrait, puisque c'est déjà l'homme, et que homme est abstrait par rapport à Pierre. Il y a des formalisations successives. Donc c'est pas la formalisation la plus abstraite, voilà. N'est pas une formalisation pour Aristote, mais demeure dans le concret, c'est-à-dire demeure. qu'est-ce que saisir ? L'homme concret dans Pierre. Je suis tout à fait d'accord, l'homme concret dans Pierre. Alors même que homme est une certaine forme. Bien, c'est sûr. Ah, c'est ça qui est très délicat. Hein. Vous comprenez ? Quand je dis Pierre, Pierre, c'est concret. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bon, Pierre, c'est concret. C'est tel individu, c'est pas Jean. Prenez dans le langage courant, quoi. Quand vous appelez un frère, Pierre, bon, c'est concret, c'est ce qu'il y a de plus concret, c'est l'existence. Pierre, qu'est-ce qu'il est ? Un homme. Bon, homme, c'est la qualité de Pierre. C'est ce qui est la détermination la plus foncière de Pierre. Substance première, substance seconde. De homme, c'est humanité. Homme comme telle qu'unité n'est pas une formalisation. C'est l'universel abstrait. Il faut savoir ça. C'est tout simplement des degrés différents d'abstraction. Notre intelligence implique cette abstraction et elle abstrait toujours plus pour mieux saisir ce qui est premier dans l'ordre de la détermination. Drôle de boutique. C'est comme ça. Et qu'à regarder le langage, quoi. Vous avez homme et humanité. Pourquoi humanité ? Pourquoi l'humanité a-t-elle le besoin de formaliser homme ? Pourquoi ? Parce que vous voulez découvrir dans l'homme ce par quoi l'homme est homme. C'est pas moi qui ai inventé ça. Et c'est pas vous non plus. Vous naissez après cette formalisation de homme et vous devez vous rendre compte de ça. Et vous ne devez pas confondre. Parce que si vous confondez les deux, la signification de homme et d'humanité n'est pas la même. Homme signifie la nature humaine. Humanité signifie ce par quoi l'homme est homme. Vous voyez ? devenez intelligent. Du moins, intelligent pour la philosophie première. Vous l'étiez avant, mais il faut être intelligent pour la philosophie première. Alors, dernière question. Nous avons vu que la recherche du principe est commandée par la recherche du premier. Dans l'ordre de l'être, le premier est-il la ratio formalis de cette recherche? Alors, faisons attention. Principe et premier, quelle différence ont-ils, principe et premier? Il faut se poser la question. Quelle différence? Un principe, c'est l'intelligence qui, dans un jugement, saisit le principe. Le premier n'est pas toujours principe. Il est premier. Le premier dans l'ordre de l'intelligibilité, c'est un axiome. C'est pas un principe au sens rigoureux. Il est premier. Donc, premier est d'une certaine manière plus abstrait que principe. Dans les nombres, il y a un premier. Est-ce que vous allez dire que 1 est principe? Non. Principe de quoi? De 2. Il est premier. Celui qui est à la tête de l'armée, premier. À la tête d'une colonne, premier. Quand vous allez sortir d'ici, il y aura un premier. Pour arriver le premier au réfectoire. Est-ce qu'il est principe? Oh non. S'il porte un drapeau, ah, il est principe. Le drapeau est principe de tout le reste. Oui, c'est pas la même chose, c'est le premier principe. Alors, je peux dire d'une certaine manière que tout principe est premier, mais que tout premier n'est pas principe. Donc, il y a du côté de l'extension quelque chose de plus. Alors, de ce côté-là, je peux dire que le principe, que le premier, c'est ce par quoi le principe, les principes, mais dans un ordre donné. Donc, c'est pas le premier qui fait le principe. Tandis que le premier, la ratio formalis, le principe. Non. Parce que la ratio formalis contient la détermination. Je prends un exemple, hein, pour que vous voyez mieux. On dit que l'ousia, puisqu'il faut se réveiller sur l'ousia, hein. L'ousia, parce que l'ousia, j'ai beaucoup médité sur l'ousia. L'ousia est principe. Principe selon la forme de ce qui est. Voilà. Bon. En tant que l'ousia est principe, l'ousia est première dans l'ordre de ce qui est. Donc, l'ousia est première dans l'ordre de ce qui est. Mais vous voyez bien que être premier ne définit pas l'ousia. Vous êtes premier dans l'ordre de l'être. Donc, la ratio formalis de l'ousia, c'est pas être premier. Parce que je peux être premier dans beaucoup d'autres choses. Dans un classement, je m'appelle A. Donc je suis toujours premier. Dans le classement alphabétique. C'est l'avantage d'Abraham. Il est toujours premier, Abraham. Tu vois, A et B, vous savez, il n'y a pas beaucoup de A. Oh. Oui, ça existe, il y en a quand même. Regardez, vous verrez. Ah, ah, et puis je sais pas quoi après. Abraham, c'est quand même. Je sais bien que R après le B, donc il nous a encore situé d'autres choses entre deux. C'est A, B, B. Il est premier dans l'ordre alphabétique. Il n'est pas du tout substance. Donc vous voyez, je ne peux pas dire que le premier est la raison formaliste du principe. Je peux dire que tout principe est premier. Ça, c'est matériel. C'est dans l'ordre de l'extension. Tandis que la ratio formalis, c'est dans l'ordre de la compréhension. Donc, faisons attention. Hein. puisque ça doit dormir un peu. L'induction de la substance. J'ai vu l'induction de la substance par le point de vue des prédicaments. Et voyez pourquoi les prédicaments sont l'ordre des déterminations de l'homme, de Pierre. L'homme concret implique les prédicaments. Et si vous aviez le temps, vous feriez les prédicaments pour chaque membre du noviciat. Frère Arthur. Substance première de frère Arthur. Substance seconde de frère Arthur. Qualité de frère Arthur. Quantité de frère Arthur. Avant le noviciat, après le noviciat, il a perdu des kilos. Parce qu'il a jeûné fortement. Avant le carême, après le carême. Tu vois? Alors, quantité, ses relations, son situs. Il arrive toujours le dernier. C'est un situs. D'une certaine façon. Et ainsi de suite. L'usage de son vêtement. L'usage de ses sandales. L'usage de ses lunettes. La pipe, elle est mise loin. Et ainsi de suite, vous voyez. Bon, faites les prédicaments. C'est toutes les déterminations d'un être. Et de l'homme. Parce que les prédicaments, c'est par rapport à l'homme. C'est pas par rapport à l'animal. Je peux saisir maintenant la substance autrement. Puisque nous avons vu, si vous vous souvenez bien, que normalement, avant le point de vue métaphysique, qu'est-ce qu'il y a ? Philosophie du travail, de l'art, de l'activité artistique, philosophie morale, de l'amour, d'amitié, philosophie politique. Bon, tout cela est présupposé à la métaphysique. Philosophie de la matière. Philosophie du vivant. Donc, ce qui est le plus proche de la métaphysique, philosophie du vivant. Je peux donc me servir de la philosophie du vivant pour atteindre la substance. Je peux me servir de la philosophie de la matière pour atteindre la substance. Puisque c'est présupposé. Tout ça est antérieur, normalement, à la recherche de la philosophie première. Me sert pour la philosophie première. Alors, je ne vais pas faire tout, mais ce serait intéressant, vous voyez. Vous avez 5 voies d'accès. Vous avez la voie d'accès immédiate, voie express. La voie express, bon pitou. La voie express, qui vous conduit à la substance. C'est les 10 prédicaments. Mais je peux me servir de chacune de ces voies. Et chacune de ces voies me conduit nécessairement à l'ousia. Pas immédiatement, puisque je dois passer du vivant à l'être. Mais je peux chercher qu'est-ce qui est premier dans l'ordre du vivant. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre du vivant. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la nature. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre politique. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre moral. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'âme. Et en cherchant ces premiers dans l'ordre de la détermination de ces différentes parties de la philosophie, j'ai les analogues de la substance dans chacune de ces parties de la philosophie. Et ces analogues de la substance dans toutes les parties de la philosophie m'aident à comprendre ce que c'est que la substance. Oui, petit raisonnement, pour unifier toute la philosophie et comprendre que l'ousia est au terme. Alors, on va le faire très simplement pour au moins l'un ou l'autre, et puis après je vous laisserai continuer. Ça aide à comprendre ça. Il y a la grande échelle qui conduit tout de suite, et puis toutes les petites séquelles. Alors, premier dans l'ordre du vivant, qu'est-ce que c'est ? C'est l'âme. Il y a une induction. intuition pour saisir ce que c'est que l'âme humaine. Comment pouvez-vous saisir votre âme? C'est intéressant, ça. Comment pouvez-vous saisir l'âme? Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver. Ça, c'est la liturgie, le cantique. Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver. Alors, je n'ai qu'une âme, qu'est-ce que c'est, philosophiquement parlant? Est-ce que vous avez déjà saisi votre âme au plan philosophique? Vous avez deux connaissances de l'âme. L'intériorité. Quand vous faites oraison, quand vous faites la méditation, les stoïciens faisaient un quart d'heure de méditation avant de commencer la philosophie, le cours. Un quart d'heure de méditation. Nous faisons une demi-heure, donc on est un peu plus avancé que les stoïciens. Ou trois quarts d'heure. Un quart d'heure de méditation. L'intériorité. Par l'intériorité, vous saisissez qu'il y a quelque chose en vous qui est plus profond que lorsque vous vous regardez dans la glace. Ou que lorsque quelqu'un vous regarde, il ne voit que l'extérieur. Il ne voit pas l'intérieur. L'intérieur, c'est tout à fait différent. Dans cette intériorité, vous touchez ce qu'il y a de plus vous-même. Je crois que vous êtes quand même arrivé à un degré de spiritualité tel que vous pouvez dire que votre intériorité est plus que le bout de votre nez. J'ai un grand nez, c'est possible. J'ai un grand nez ou un gros nez. C'est pas mon intériorité, ça. Ça ne veut pas dire que mon âme est comme ça. C'est mon corps. Je distingue le corps et l'âme. Je saisis qu'il y a une intériorité. Parce que je me souviens, c'était à Lausanne, le professeur de philosophie m'avait dit, tous mes étudiants sont dans la perspective de Merleau-Ponty. Pas de distinction entre l'âme et le corps. Comme ce professeur était chrétien, protestant et convaincu, j'ai dit, c'est ennuyeux pour vous, parce que vous êtes quand même chrétien. Il dit, oui. Ben, vous faites la distinction de l'âme et du corps, oui. Alors, cette philosophie qui nie cette distinction, ça vous gêne pas? Non. Si c'est embêtant, mais il était luthérien. Calviniste, ça ne gênait pas beaucoup. Tous vos étudiants, ils me disent tous, sont convaincus que la distinction de l'âme et du corps est une vieille distinction qu'il faut dépasser. C'est une distinction grecque. Alors je dis que c'est faux. Distinction qui vient de l'Inde. Elle n'est pas grecque. Alors ça l'intéressait déjà. Vous voyez, remontez un peu plus loin, vous verrez que c'est de l'Inde. Tradition religieuse. Alors toutes les traditions religieuses sont fausses. C'est du mythe de dire des distinctions entre l'âme et le corps. C'est ennuyeux. On me dit oui, c'est vrai, c'est ennuyeux. Mais je vois pas comment. Alors, il m'a dit à ce moment-là, si vous voulez, je vais réunir tous mes étudiants qui sont Merleau-Ponty. Et vous allez leur montrer que la distinction de l'âme et du corps est une distinction qu'il faut garder. Je dis, je veux bien. C'est pas commode. Convaincu avec Merleau-Ponty. Merleau-Ponty faisait perdre la foi à des étudiants chrétiens. J'en ai vu plusieurs. Parce que si on supprime la distinction de l'âme et du corps, vous savez, c'est pas commode d'être chrétien. Donc c'est important d'arriver à distinguer l'âme et le corps, philosophiquement parlant. conscience parfaite. Je ne me réveille qu'à partir du café. C'est la seule solution. Si je pouvais prendre le café avant, je ferais oraison magnifiquement, divinement, grâce au café. Ratio formaliste de l'oraison. Le café, la raison. Ce qui me réveille. Puis ensuite, travail, et ainsi de suite, vous voyez. Toutes vos opérations, c'est toujours vous. Donc il y a quelque chose qui fait l'unité de toute la diversité de vos opérations. Et cette unité, cette source unité, c'est mon âme. C'est ce qu'on appelle l'âme. Le mot âme n'est pas un mot philosophique. Du moins, c'est pas un mot que les philosophes ont inventé. Ça, c'est vrai. C'est un mot inventé par les traditions religieuses. Comme Dieu. Vous êtes très attentif à ça aujourd'hui. Hein. Le philosophe n'a pas inventé. Il a inventé aussi. Hein. Ah, ça oui. Substance est un mot philosophique. Et pas. C'est très curieux. C'est un mot de tradition religieuse. Mais le philosophe peut se demander si âme, c'est un mythe. Si c'est réel. Eh bien, quand je réfléchis, je vois que nécessairement il y a en moi un principe d'unité de toutes mes opérations vitales. Et surtout parce que je pense. Surtout parce que je suis capable d'aimer. Surtout parce que je suis capable de me lever, de me réveiller. Quand vous vous réveillez, c'est quand même quelque chose. C'est votre âme qui subitement reprend le dominium sur le corps. C'est extraordinaire. Et l'ange doit être en admiration chaque fois que vous vous réveillez le matin, votre ange gardien. Parce que c'est votre âme qui reprend le dominium sur le corps. Quand vous dormez, aucun dominium. Vous êtes remis au cycle de la nature. Vous savez que c'est violent de se relever avant le soleil. C'est violent, on sent bien. Se lever après le soleil, c'est très doux. Mais vous violentez chaque fois que vous le faites avant le soleil. Et c'est votre âme qui reprend possession de votre corps en disant « Je veux dominer mon pauvre corps. Et je domine mon corps en me réveillant. » C'est beau de se réveiller, soit nul là. C'est votre âme qui reprend possession de votre corps. Alors, il y a donc une unité à travers toute cette diversité d'opérations. Et cette unité, c'est mon âme qui est source de toutes mes opérations vitales. Toutes. Aussi bien le petit déjeuner que l'oraison. Et que écouter un cours de philosophie. Et que de travailler. Et que de parler. Et que d'écrire. Toute cette... Il y a une unité, c'est moi. Cette source de toute ma vie, c'est mon âme. Alors vous voyez, je pose l'âme comme source de toutes mes opérations vitales. Or, comme mes opérations vitales, c'est moi, c'est mon être. Je suis à travers mes opérations vitales. Le to einai anthropo, l'être à l'homme, l'être à Pierre, c'est dans ces opérations vitales. J'existe à travers mes opérations vitales. Mes opérations vitales me donnent ma manière d'exister. Comment j'existe ? À travers mes opérations vitales. Je me pose donc la question, mon âme, principe de mon être, principe de mes opérations vitales, de ma vie, est aussi principe de mon être. Ou est-elle aussi principe de mon être? C'est comme ça qu'il faut poser le problème. Mon âme est posée comme source. Principe. Principe selon la forme de toutes mes opérations vitales. Toute la diversité de mes opérations vitales est unifiée grâce à ce que je suis. À cette source de toutes mes opérations vitales. Il faut bien qu'il y en ait une, puisqu'il y a une unité à travers toutes mes opérations vitales. Prendre mon petit déjeuner, présent là au début du cours et maintenant que c'est la fin du cours, est-ce que c'est la même personne? J'ai entendu un petit signal. C'est la fin du cours. Est-ce que c'est moi? Il y a eu quand même un petit intervalle entre deux. La fin de l'oraison. Oh, comme ça a été court. Oh, comme ça a été long. C'est... Vous voyez, il y a quelque chose qui dépasse le temps, qui dépasse la durée. Il y a une source. Mon âme. Source de toutes les déterminations de ma vie. Puis je me pose la question, ce principe et cette source de toutes mes opérations vitales, est-ce que c'est la source de mon être? Est-ce que mon être, c'est ma vie? Est-ce que j'existe en dehors de ma vie? Petite question intéressante, le passage de la philosophie du vivant à la métaphysique. Vous n'êtes jamais posé le problème, heureusement, du reste. Vaut mieux. Est-ce que votre être est distinct de votre vie? Ma vie, c'est mon être. Je n'ai pas d'existence en dehors de ma vie. Ma vie, c'est mon être. Et pourtant, c'est distinct. En ce sens que je sais très bien qu'un jour, je mourrai. La mort se situe à quel niveau? De ma vie ou de mon être? Ah. Est-ce qu'en mourant, je serai anéanti? Ma vie sera brisée. Ma vie sera brisée. Ma vie humaine sera brisée. Est-ce que je verrai mon cadavre? Ça doit être drôle comme situation. Je verrai mon cadavre. Un jour, je verrai mon cadavre. Tiens. Ouais. Et les autres verront mon cadavre. Et c'était son corps. Son âme. Elle n'est plus dedans. Où est-ce qu'elle est? Difficile à préciser. Donc mon être est distinct de ma vie. Mais cependant, maintenant que je vis, c'est mon être. Alors qu'est-ce que ça représente, ça? Cette distinction que je fais et qui se fait par le point de vue de la mort. La mort n'est pas une anéantisation. Je ne retourne pas au néant. Il y a une brisure. Il y a une brisure dans mon être, dans ma vie. Et alors, je continue d'être dans mon âme. Et je continue d'être dans mon cadavre. J'en ai pas l'expérience, mais je peux projeter ça quand je vois quelqu'un qui meurt. Il existe, il continue d'exister dans son cadavre. C'est un être cadavérique. Il continue d'exister dans son âme. Puisque j'ai dit que l'âme existait. Et que l'âme a quelque chose d'intérieur qui n'est pas entièrement lié au corps. Conditionné par le corps, mais pas déterminé par le corps. Donc, il y a deux choses différentes. Alors, je vois qu'il y a une distinction entre être et vie. Mais tant que je vis, c'est mon être. Donc, mon âme, c'est ma substance. En tant que l'âme et principe de mon être, je vois la nécessité de poser la substance.